Tanou.
Le monde est à moi.
Le monde est à toi.
Le monde est à lui.
Le monde est à elle.
Le monde est à vous.
Le monde est à eux.
Le monde est à nous.
Téléphone rose. Téléphone rose.
On m'a dit, je chuchote, j'ai chuchoté.
Alice Milo, Pauline Mocor.
Bienvenue à toi, bienvenue à vous.
Le monde est à nous.
Et on ne lâche rien.
Des fois, t'as pas l'impression qu'on est comme des hamsters piégés à tout jamais dans une roue ?
Non, je vois pas trop, là.
Mais si, on vit à 1000 à l'heure, genre métro, boulot, dodo.
Oula, t'as besoin d'un break, toi ?
Ouais, grave.
Je sais ce qui te ferait du bien. Rejoins-nous chaque dimanche et on se donne rendez-vous, même heure, même endroit.
Sur RFI.
Ils sont 20 jeunes, ils ont entre 18 et 25 ans et cet été, ils mettent tout sur pause pour faire de la radio.
Derrière la vitre, il y a Victor, le grand patron. Et en plateau, c'est deux contre-maîtresses.
Salut, moi c'est Pauline.
Salut, moi c'est Alice.
Et tous les trois, on est là pour guider l'équipe dans cette aventure radiophonique.
Mais le monde est à nous, c'est aussi toi qui nous écoutes.
Et tu peux nous suivre.
Tu dois nous suivre.
Sur les réseaux sociaux.
Alors ne bouge pas, on est là.
Aujourd'hui, on parle job étudiant.
On se demande si les petits boulots sont des opportunités ou des pièges pour les étudiants.
En tout cas, c'était du boulot pour préparer l'émission, parce que rien que pour trouver une date de réunion qui convienne à tous, ça n'a pas été une mince affaire.
Faut dire qu'entre les babysitting de Calypso,
les horaires de fou de Lou qui vient juste de trouver un job de serveuse pour l'été,
Fanny occupée à vendre des sous-vêtements,
Kaina a passé des articles sur le tapis de caisse du supermarché,
Thomas qui doit promener les chiens de ses voisins,
et Clara qui distribue les journaux.
Bon, on a fini par trouver un moment. C'était un dimanche après-midi dans le salon de Pauline. De toute façon, tu commences à avoir l'habitude.
Alors, pour parler job étudiant, Kaina nous a proposé d'inviter son employeur, Thierry Roger, directeur de l'espace emploi chez Carrefour. Et puis, on a pensé aussi à Sophie de Tarlé, parce que les petits boulots, ça la connaît. Elle les a enchaînés avant de devenir journaliste au Figaro étudiant. Sophie de Tarlé, Thierry Roger, bonjour.
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 Maud, Pauline, Geneviève, Kaina, salut à vous.
Salut.
Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi.
Bonjour à tous, moi c'est Kaina. On vient d'entendre La Banane, une chanson de Philippe Catherine, et contrairement à lui, moi, qui suis caissière chez Carrefour, je veux retourner au supermarché. Thierry Roger, bonjour. Vous êtes actuellement directeur de l'espace emploi chez Carrefour et j'aurais voulu savoir quel a été votre premier job étudiant et est-ce que les jobs étudiants vous ont aidé dans votre carrière ?
Alors, mon premier job d'étudiant, c'était à 18 ans où j'ai travaillé dans un abattoir, alors au service administratif quand même, pas à la production, où j'étais sur toute la partie facturation, prise de commande, etc.
Est-ce que ça vous a apporté des choses alors ensuite pour votre carrière ?
Alors, j'ai fait ce job d'étudiant 3 années de suite, juillet-août, et effectivement, c'est grâce à ce job d'étudiant que j'ai pu affiner mon projet professionnel et finalement savoir que c'était dans les ressources humaines que j'avais envie de faire carrière.
Donc bonjour, moi c'est Geneviève. Donc Sophie de Tarlé, bonjour.
Bonjour.
C'est un rituel donc pour nos invités. On leur demande de ramener un objet qui parle d'eux. Donc vous avez apporté un objet en rapport avec le sujet. Donc premier petit boulot, donc qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est un bottin en fait, parce que donc là je l'ai amené, vous voyez. Alors je ne sais pas si les jeunes savent exactement ce que c'est qu'un bottin.
Oui, vous pouvez
en fait,
nous expliquer.
C'est il y a quelques années encore, pour mettre les numéros de téléphone et les adresses des gens, on les mettait dans un gros livre jaune.
Les pages jaunes, les pages blanches.
Voilà, les pages jaunes, les pages blanches. On peut encore les retrouver aujourd'hui sur Internet, mais c'est vrai que à part pour votre grand-mère, c'est des objets que vous retrouverez sans doute pas chez vous. J'ai amené cet objet parce que ça me rappelle mon premier job d'été. J'avais 17 ans en fait, j'étais en fin de première et là je devais vendre des fax et des télétextes. Sans doute vous ne savez pas ce que c'est qu'un télétexte, à vrai dire moi non plus. Et tout ça, il fallait que je l'explique au téléphone à des entreprises en fait que j'appelais avec le bottin justement, je trouvais les numéros de téléphone dans le bottin et je leur dis voilà, je vais vous vendre des fax et des télétextes. Il fallait que j'explique ce que c'était. Alors, j'en avais jamais vu en fait, ni un fax ni un télétexte, je savais même pas ce que c'était. On m'avait donné une définition. Alors je disais vous mettez une feuille de papier sur l'objet et ensuite à l'autre bout du monde, on a cette feuille de papier qui arrive. Et alors, les gens trouvaient ça complètement dingue, cet objet bizarre. Et je disais, voilà, c'est tout nouveau et ça va changer la vie.
Donc, et ça vous a aidé? Ça vous a aidé pour la suite, alors?
Oui, tout à fait, parce que je devais passer des coups de téléphone en rafale, en fait, pour appeler toutes les entreprises en France. Et le fait d'appeler comme ça, de faire 50 coups de fil dans la journée, bah, j'avais plus du tout peur de ça. Mon premier boulot de journaliste, ça impressionnait un peu les gens, quoi, de voir ma capacité à appeler autant de gens dans la même journée, sans jamais me fatiguer, sans jamais me lasser, et surtout supporter les gens qui me raccrochent au nez sans aucun problème.
Pauline.
Alors bonjour à tous, bonjour Thierry Roger, bonjour Sophie. Moi j'ai une petite question, j'ai relevé sur une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante que 73% des étudiants en France ont un petit boulot pour financer leurs études, soit 10% de plus que la génération précédente, ce qui est quand même pas rien. Et je me demandais pourquoi autant d'étudiants travaillent et pourquoi est-ce qu'il y en a de plus en plus comme ça.
Thierry Roger.
Alors moi je pense qu'il y a plus d'opportunités aujourd'hui qui sont faits en job d'étudiant. Alors, soit en job d'étudiant saisonnier pendant les vacances scolaires, etc., soit job d'étudiant sur l'année en un petit contrat pour accompagner ses études. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'opportunités qu'il y avait sur la génération d'avant, avec des domaines d'activité comme la restauration rapide, qui est un pourvoyeur de job d'étudiants importants et qui n'était pas hyper développé sur la génération d'avant.
Mais chez Carrefour, vous l'avez constaté.
Nous, la grande distribution, c'est la même chose. Les amplitudes d'ouverture aux clients étant de plus en plus larges, en fait, on a complété ces ouvertures supplémentaires par des jobs d'étudiants très souvent. Notamment, ça va être les horaires après 19h ou sur les formats un peu alimentaires qui sont vers le dimanche matin. Souvent, c'est des jobs d'étudiants qui sont dans les magasins. Voilà. Donc déjà, je pense que l'offre est beaucoup plus importante que la génération d'avant, ce qui fait que globalement, il y a plus de jeunes qui rentrent plutôt sur le marché du travail à travers ces petits métiers. Et après, sur les métiers saisonniers, je pense que c'est la même chose qu'avant. Il y a toujours eu ce côté juillet-août, on travaille. Mais c'est plutôt du coup sur la partie job d'étudiant toute l'année pour financer ses études, oui, que la différence se fait.
Le monde est à nous.
Thierry Roger, vous ne contredirez pas, avoir un patron, c'est quand même souvent le passage obligé quand on commence à travailler.
Autoritaire, paternaliste, consciencieux, conciliant, compréhensif. Et vous ? Vous les aimez comment, vos patrons ? Donia et Geneviève sont allées poser la question aux passants en plein cœur de Paris.
Ça fait des années que je travaille pour toi, patron.
Ouais.
Tu connais mes qualités. Hein ? Mais à chaque fin de mois, patron, pour quelle raison tu me fais tourner en rond ? Patron.
Ah ben, si j'étais patron, je commanderais les autres et puis je m'en mettrais plein les poches.
Profiteurs, escrocs, parce que les nouvelles lois du gouvernement sont en leur faveur. J'ai côtoyé beaucoup de patrons. Ils n'ont pas l'air très honnêtes, à vrai dire.
C'est-à-dire ?
Oh, c'est-à-dire qu'ils profitent de la précarité. Ils ne pensent pas trop aux salariés. Mais ça devient beaucoup plus difficile. Les salariés ont peur maintenant de leur patron, de leur employeur. Ça se répercute sur les familles. Et ce n'est pas sympa de la part des patrons. Voilà.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Excusez-nous de vous déranger.
On est toutes les deux journalistes pour Le Monde est à nous, l'émission sur RFI. Alors, quand on vous dit patron, à quoi vous pensez en premier ?
Mais attendez, moi, je suis retraité maintenant.
Hein. Oui, mais il n'y a pas de souci.
Je pense à celui qui me donne du travail. Mais en France, on dit que si vous êtes patron et que vous gagnez de l'argent, c'est que vous êtes un salaud. Et si vous ne réussissez pas dans la vie, vous êtes un bon à rien.
Et est-ce que vous avez déjà été patron ?
Non, mais j'ai été travailleur indépendant.
Et vous avez déjà été salarié ?
Ah oui. Je disais, je trouve que je ne gagne pas beaucoup. Mon père disait, si tu n'augmentes pas, c'est que tu ne vaux pas plus cher. J'ai été profession libérale à la fin de mai. Mais attends, j'ai tout fait. À 12 ans, je poussais une petite voiture pour aller vendre de la glace à la fête du trône. 12
ah
ans,
oui.
J'ai...
Ouais. Vous en avez fait.
Ah oui, oui. Puis on fabriquait la glace le matin. C'était après la guerre avec de la flotte. Oh, j'ai fait plein de trucs.
Pardon, vous avez quel âge ?
83.
Ok, d'accord. Merci beaucoup,
et
monsieur.
À votre service, bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Profitez du soleil.
Au revoir.
J'ai 26 ans. Je suis marketing manager pour une petite entreprise.
Okay. Donc quand on vous parle de patron, à quoi vous pensez en premier ?
Je pense à un manager, je pense à quelqu'un qui nous encadre et qui nous drive dans la bonne direction.
Donc c'est plutôt positif.
Ouais, c'est plutôt positif. Mes expériences ont plutôt été positives jusqu'à présent.
Et donc aujourd'hui, vous travaillez dans quel pays ?
Au Royaume-Uni. C'est un mode de management totalement différent. C'est beaucoup plus flexible au Royaume-Uni. Bon, le marché du travail est beaucoup plus flexible aussi. Donc on embauche et on vire les gens un peu plus comme on veut. Mais ça fait qu'on donne leur chance à des jeunes, les possibilités d'évolution sont beaucoup plus rapides, donc c'est beaucoup plus ouvert, les relations hiérarchiques sont beaucoup moins importantes, on va dire. Enfin, il y a beaucoup moins de silos dans les relations hiérarchiques. Donc voilà, on va boire des bières avec son patron à la fin de la semaine. C'est vraiment beaucoup plus flexible et beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible en tout cas.
Aujourd'hui, on parle des jobs étudiants. Kaina, toi, tu es en master de communication et à côté de ça, tu travailles comme caissière chez Carrefour et ça te prend 18 heures par semaine. Donc, tu nous as expliqué que tu n'étais pas obligée de travailler, mais que c'était un choix que tu avais fait. Et voilà, je voulais préciser quand même que d'après une étude de l'INSEE, un étudiant avec un contrat de plus de 6 mois perd en moyenne 1,5 point sur ses notes à la fin de l'année. Et toi, d'ailleurs, Kaina, tu en as fait les frais.
Alors ouais, au premier semestre de mon master 1, j'ai eu 10,5 de moyenne. J'étais super déçue parce que j'avais jamais eu en dessous de 12 avant, mais j'étais trop fatiguée. Et des fois, il arrivait que j'enchaîne une journée de cours, puis Carrefour jusqu'à 22h15. Et ensuite, révision toute la nuit et rebelote. J'enchaînais le lendemain les cours et j'allais directement à mon examen ou à mon exposé. Du coup, Sophie de Tarlet, est-ce que selon vous, un petit boulot plus des cours, c'est une menace pour notre réussite? Et est-ce que ça ne rentre pas en compétition avec nos études?
En fait, le job d'été, c'est une bonne chose, mais il faut pas que ça dépasse un certain seuil d'heures. C'est-à-dire au-delà d'en gros 8 heures par semaine, ça peut être un danger pour les études. Donc là, vous êtes à 18 heures, il me semble que c'est trop élevé pour un étudiant. Il faudrait que vous baissiez, disons, à 8-10 heures maximum. En gros, un samedi, par exemple, ou un dimanche. Et puis, il y a un deuxième critère, essayez du moins que le job d'été soit en rapport un peu avec votre future profession, ou au moins un petit lien. Ça, oui. C'est encore mieux même.
Ouais, bon, là, pour le coup, je vais être journaliste, donc il n'y a pas vraiment de grand rapport entre les deux.
Alors, selon une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, 76% des étudiants estiment que leur petit boulot a un impact négatif sur leur santé physique et psychologique. Pauline, toi, tu es vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter et tu nous disais qu'en ce moment, c'est vraiment pas facile pour toi.
Oui, en ce moment, c'est les soldes. Donc, je suis en 35 heures et je me sens assez épuisée, hélas, de tout. Ça me rend même particulièrement irritable avec mes amis, mon mec. Et je pense que c'est parce que je me sens prisonnière de quelque chose qui me correspond de moins en moins. Et franchement, c'est vrai que regarder des nanas hésiter entre une robe à 200 euros ou un top à 150 euros, c'est le cadet de mes soucis. Je crois, je dirais que je suis même sûre, mes priorités ont changé. Donc Sophie de Tarlet, ma question c'est comment trouver un petit boulot alimentaire sans être malheureux et qui soit fidèle à nos ambitions et nos valeurs.
Bah, c'est difficile, comme vous disiez, vous voulez être journaliste, évidemment, caissière, ça n'a rien à voir. Mais moi aussi, quand je faisais du télémarketing, d'ailleurs, je savais pas du tout que j'allais devenir journaliste, mais en fait, j'avais aucune idée. Donc, et c'était très dur, vous parlez de fatigue et de lassitude. Moi, je me rappelle le soir, quand je revenais, j'avais tellement le cerveau vidé que dès qu'on m'appelait au téléphone, je répondais, ça j'aime, bonjour, parce que c'était la boîte pour laquelle je travaillais.
Et surtout que c'est dur de passer du...
Très, très difficile de passer de la vie écolière. Voilà. Un petit peu, on prend des notes, machin, mais enfin, c'est quand même assez tranquille. À une vie comme ça, aussi intense, aussi dure, avec un patron parfois, moi c'était une patronne qui était très dure et tout ça. Donc, moi j'avais 17 ans, elle m'avait dit que j'avais pas fait un chiffre assez suffisant, donc je m'étais mise à pleurer au travail.
Oui, beaucoup de pression.
Donc, j'avais beaucoup de pression et à la fin du mois, elle m'avait dit, ah maintenant finalement on veut te garder. Donc, je comprenais pas. C'est quand même très dur. Et d'être plus heureux, à mon avis, ça peut juste vous motiver pour réussir vos études. C'est tout. Moi, à la fin, je suis passée en terminale et je me suis dit, mais je veux faire des études et je ne veux pas faire ça toute ma vie, quoi. C'est clair.
Thierry Roger, vous, comment est-ce que vous vendez Carrefour à des jeunes étudiants? Comment vous convaincriez des jeunes étudiants d'aller bosser chez Carrefour avec ce qu'on vient de dire? Ça a quand même des conséquences aussi. Comment est-ce que vous donneriez envie à un étudiant qui veut pas forcément faire un métier plus tard en rapport avec l'enseigne?
Alors déjà, nous, effectivement, les jobs d'étudiants, c'est hôtesse de caisse ou c'est employé commercial. Donc, les étudiants qui viennent faire ces boulots-là, c'est pas des gens qui font des études pour faire ces boulots-là. Dans l'argumentaire, ce serait d'avoir des horaires conciliables avec le planning scolaire, hein, puisque ça va plutôt être effectivement le week-end et le soir. Donc, ça rentre pas en contradiction avec les cours. Donc, ça, c'est la première des choses. Après, c'est quand même un pied dans l'entreprise. Et je pense que même si on s'en rend pas forcément compte au moment où on est dans le job et quand c'est les soldes et que c'est dur et qu'en même temps c'est la période des examens et qu'il faut cumuler tout ça. Il y a quand même des compétences, il y a quand même des habiletés, il y a quand même quelque chose qui se construit dans la personne et qu'on va prendre conscience plus tard. Et je pense que ça, c'est un élément important du job d'étudiant en termes de maturité et en termes de, entre guillemets, d'employabilité. Il y a quelque chose qui se construit, qui se façonne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui va être très différenciant par rapport à celui qui arrive à son Master 2 et qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise ou juste un stage. Et là, la différence, elle va être flagrante et énorme. Donc, au quotidien, oui, c'est lourd et oui, c'est dur parce que c'est quelque chose qui est en plus des cours, des révisions, du travail personnel, du mémoire, du voilà. Mais au bout du cursus, c'est forcément un plus qui est énorme, quoi.
Bon, les jobs étudiants, c'est pas toujours marrant. C'est ce que nous a raconté aussi le pépé de Thomas.
Parce que oui, tous les dimanches, un jeune de l'équipe rencontre un ancien pour lui demander comment c'était à son époque et quels conseils il pourrait donner aux jeunes d'aujourd'hui.
C'est la minute de pépé.
Alors, les parents ou autres, c'est des vieux cons la plupart du temps. Tu sais, à mon époque, oui, alors. Mais c'est le présent qui compte pour les jeunes.
Quand nous étions lycéens et ensuite étudiants, comme tous les jeunes maintenant, nous essayions de chercher de l'argent par des moyens honnêtes et honorables. Et ce qui était facile et reconnu par tous, c'était la période des vendanges. Donc tout le monde allait aux vendanges. Il y avait quelqu'un qui faisait ce qu'on appelle les comportes. C'était en bois, un genre de cuvier qui faisait 50 litres et dans lequel on vidait le raisin. En plus de ce quelqu'un qui faisait les comportes, il y avait ce qu'on appelle les tireurs à palse. Alors les tireurs à palse, c'était en général des hommes qui, avec ce qu'on appelle un pal, attrapaient ces comportes par ce petit bout de ferraille qui dépassait à droite et à gauche et les amenaient au bout de la rangée et les chargeaient ensuite sur la charrette. Moi, très tôt, dès que j'ai eu 15 ans, j'étais solide, j'ai été tireur à pales. Je me rappelle bien, oui. Alors, il y avait les journées d'hommes et les journées de femmes. Une journée d'hommes, ça ferait 35 euros à peu près, plus 3 litres de vin. Et une journée de femmes, ce serait 28 euros, plus 2 litres de vin. Oui, pour l'époque, c'était bien payé. J'ai fait ça des années. Mais j'ai un grand souvenir de mes 5 ou 6 ans, peut-être plus, de tireur à palse, parce que c'était le moment de la joie, on fatiguait pas trop, on était fourbu le soir, puis on riait. C'était un petit métier de ma jeunesse, puis ça a été fini. C'est encore plus terminé, parce qu'avec les machines à vendanger, nous savions qu'en acceptant les vendanges, on allait suer, mais on soulageait des fois des familles. Moi, je vendangeais parfois pour ma famille, et un jour, on rentrait de l'argent, dont j'ai de très très bons souvenirs. Puis on avait la satisfaction du travail bien fait, et puis de l'argent qui rentrait.
Donc c'était un peu comme un petit boulot à l'époque, on peut dire ça.
Ah oui, c'était un travail saisonnier, c'était un petit boulot, ce qu'on appelle maintenant un petit boulot, oui.
Est-ce que tu conseillerais les jeunes d'aujourd'hui à faire un petit boulot, saisonnier ou pas?
Mais je crois que tous en cherchent, parce que oui, que c'est important. Déjà, du point de vue pratique et matériel, ça leur ferait un peu de fric, un peu d'argent de poche, ce qui est toujours agréable. C'est pas mal de se heurter à la société avec des gens qui sont pas toujours réguliers, d'avoir des petits patrons, parce qu'il y a toujours un patron au-dessus quand même là-dedans, hein, de se faire commander, de savoir accepter, et puis de se heurter surtout au monde extérieur. Oui, oui, trois fois oui. Ils n'ont pas besoin de que je leur dise pour le savoir. Mais c'est très formateur, je pense. Oui, c'est très formateur.
Maud, ce pépé te faisait réagir.
Oui, parce que moi justement, j'ai une expérience totalement différente. Mes parents ne sont pas d'accord pour que je travaille à côté de mes études. Ils veulent que je me concentre sur mes études à la fac. Du coup, c'est eux qui payent le loyer de mon appart et en plus, ils me donnent des sous tous les mois pour que je puisse vivre. Je me sens un peu comme une privilégiée par rapport à mes potes qui doivent bosser à côté de leurs études. Sophie de Tarlet, pour vous, est-ce que c'est pas injuste que certains étudiants soient aidés par leurs parents et d'autres pas?
Bah oui, c'est toujours injuste, mais enfin l'injustice, voilà, c'est curieux qu'ils vous interdisent quand même de travailler, parce que je trouve que, comme disait Pépé, je trouve que c'est quand même très formateur.
J'ai quand même réussi à négocier, à bosser l'été, à partir de l'été dernier, quoi.
Ah oui, c'est incroyable de devoir négocier pour pouvoir travailler. Moi, je suis désolée, mais je suis très surprise de ça parce que
Pour moi, ça a toujours été dans ma vie de travailler l'été pendant l'année. Ça, c'est vrai, un peu nuit à mes études. Mais quand même, ça m'a appris la débrouillardise et énormément de choses au niveau moral, justement d'être avec un patron, de savoir accepter des ordres, d'avoir de la souplesse aussi. Et je pense que vous pourrez leur dire ça, vos parents, que c'est pas uniquement pour l'argent, c'est aussi pour apprendre la vie, quoi.
Le monde est à nous.
Reste avec nous, on revient dans 3 minutes.
Geneviève, Maude, Kaina et Pauline continuent de plancher sur la question des petits boulots avec nos deux invités, Sophie de Tarlet et Thierry Roger.
Ce sera juste après le flash et les nouvelles du monde.
Le monde est à lui.
Le monde est à elle.
Le monde est à vous.
Le monde est à eux.
Le monde est à nous.
Le monde est à nous. Pauline Mocor, Alice Milo.
Salut à tous.
Le monde est à nous, c'est tous les dimanches de l'été sur RFI.
L'émission est fabriquée par 20 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans.
Dans le studio, Geneviève, Maude, Kaina et Pauline se posent aujourd'hui la question de l'impact des jobs étudiants sur la réussite des études.
Et nos invités sont Thierry Roger, directeur de l'espace emploi chez Carrefour, et Sophie de Tarlet, journaliste au Figaro étudiant.
Et toi, derrière ton poste, lâche un peu la pression, c'est l'heure de la pause, le monde est à nous.
Le monde est à nous.
De wereld is van ons.
Le monde est à nous.
Welke dus.
Et tout de suite, le reportage du jour.
Vous connaissez Hitch ? En gros, c'est le Uber des jeunes. Des chauffeurs privés qu'on peut commander via une application, mais qui fonctionnent seulement la nuit. On compte déjà 5000 chauffeurs, pour la plupart des particuliers, qui utilisent Hitch comme un petit boulot d'appoint.
C'est le cas de Hugo, et c'est Oumar qui est monté dans sa voiture.
Je vais nettoyer la voiture, mettre les bonbons et les bouteilles d'eau en place pour qu'elles soient à disposition des passagers. Et après, c'est parti.
Alors avant de démarrer, Hugo, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs ?
Ouais, alors je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans, je suis en 4e année d'école d'ingénieur. Et je fais Hitch depuis maintenant pas loin d'un an. Ça fait un an, ouais. Ça permettait de se faire un petit peu d'argent assez rapidement et c'était assez souple comme travail.
Et une nouvelle demande, c'est rapide.
Ouais, en général c'est très rapide, on attend à peine 30 secondes au maximum le temps d'avoir une nouvelle course une fois qu'on a déposé un passager.
Et donc là tu dois te diriger où exactement ?
Alors là je vais à Villejuif.
On est à 1 minute, tu te gares.
C'est ça.
On l'attend.
On vient d'arriver, je vais l'appeler pour lui prévenir qu'on est arrivé.
Il y a du. Ah ouais, c'est les 45. Ouais, 45, elle est à l'ancienne. C'est excellent, c'est vachement bon les 45.
Vous êtes adepte de ces bonbons ?
C'est surtout la nostalgie quoi. C'était des trucs qu'on achetait avant quand on était petit.
T'as fait le bon choix, Hugo.
toujours.
Le taxi, vous pensez qu'il vous aurait coûté combien de fois plus cher ?
Mais je pense que c'est 1,5 fois.
Tu confirmes ?
En réalité, c'est plus proche des fois, enfin, deux fois, voire trois fois plus cher.
Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que j'en ai pris un d'ailleurs. Et j'avais halluciné parce que c'était deux fois moins cher. Donc le mec arrive, très très sympa et tout, petite bagnole un peu déglinguée, tout ça, voilà, un petit bon bec comme d'habitude et tout, impeccable. Et puis, alors je voyais que c'était quand même pas la joie, il était pas super appelé et tout, c'était quand même pas... Et puis donc on est arrivé chez moi et puis c'était pour 10 balles. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de payer ce que j'aurais payé pour un taxi. Et le mec m'a dit, eh ben merci, grâce à toi je vais rentrer chez moi tout de suite.
Ça c'est la théorie du pourboire, tu sais, moi je dis ça aussi. Dit que pour donner du pourboire, il faut en avoir reçu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en vouloir à quelqu'un qui est extrêmement riche et qui ne donne pas de pourboire, parce qu'il ne sait pas le faire. Il ne sait pas le faire parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'en a jamais reçu de sa vie, parce qu'il n'a pas fait de petits boulots. Le truc, c'est les petits boulots, c'est le sujet. Bon, bah, dans les petits boulots, ceux qui ont fait des petits boulots, eh ben, ils donnent des pourboires parce qu'ils en ont reçu, parce qu'ils en ont fait des petits boulots. Voilà.
Vous auriez mis quoi comme son, vous ?
J'aurais mis Kouyamaté.
On passe donc, redites-moi le nom.
Kouyamaté.
C'est parti.
C'est
Sophie de Tarly, c'est quoi selon vous le job étudiant idéal ?
Il n'y a pas de job idéal, mais c'est vrai que nous, on en a sélectionné quelques-uns. Il y a, par exemple, être le personnel sur un yacht de luxe.
Moi,
ça, j'aurais adoré faire ça. Voilà, hôtesse de l'air, ça, c'est le job étudiant de rêve. Moi, j'en avais fait un qui était pas mal, pas de rêve, mais presque. J'étais babysitter dans les palaces de Paris. Je m'étais inscrite dans une agence et une fois, donc je gardais les enfants de gens très riches dans tous les grands palaces de Paris. Et une fois, on m'a appelée pour garder une vieille dame, donc à l'hôtel Saint-James à Paris, qui est vraiment un grand hôtel. Et là, il y a un monsieur qui me dit, voilà, vous pourriez garder ma mère parce que ce soir, je vais au Lido et donc je ne peux pas l'emmener. Donc, j'aimerais que vous gardiez ma vieille mère pendant tout ce temps-là. Alors, je suis allée voir la vieille mère, qui était une vieille dame australienne, et dans sa chambre. Et puis, je l'ai emmenée au restaurant et on a dîné toutes les deux au restaurant pendant que son fils était au Lido. Et puis après,
c'est donc cette boîte où on voit des femmes.
Voilà, des danseuses un peu dénudées. Donc, pour une vieille maman, c'était peut-être pas l'endroit idéal de voir des danseuses.
Elle a peut-être aimé.
Enfin, en tout cas, le fils voulait pas tellement l'emmener. Et après, on est allé au petit bar de l'hôtel et on l'a attendu. Il est arrivé vers minuit. Et là, il m'a donné un énorme pourboire. À l'époque, il m'a donné 500 francs de pourboire. Et j'ai trouvé ça génial parce que d'avoir un énorme pourboire, d'être payé et en plus de passer un dîner avec une vieille dame charmante, pour moi, c'était le job idéal.
Geneviève. Oui. Donc aujourd'hui, les jeunes se tournent de plus en plus vers les startups telles que Deliveroo, Hitch ou encore Foodora, car c'est une aubaine en fait pour les jeunes. C'est le travail qui s'adapte à eux et non plus à eux de s'adapter au travail. Par exemple, moi je préfère faire du babysitting au black car on peut toujours s'arranger avec l'employeur au niveau des horaires. Donc je me demandais, Thierry Roger, vous qui êtes directeur de l'espace emploi chez Carrefour, s'il est vraiment possible pour les grands groupes de s'adapter aux étudiants ayant un emploi du temps très strict et très peu de plage horaire.
Pour des enseignes comme les nôtres, oui, puisque les jobs d'étudiants sont plutôt sur les plages horaires qui vont être le dimanche matin, qui vont être le samedi, qui vont être le soir après 19h. Donc du coup, normalement, au moment où ils n'ont pas d'heure de cours. En général, au moment de l'embauche, on demande aux jeunes son emploi du temps. Et son emploi du temps est adapté à son emploi du temps à la fac ou dans son école. Donc souvent, c'est assez compatible. Il peut arriver aussi que les horaires diminuent au moment des examens. Il y a des organisations comme ça qui se mettent en place de façon à favoriser quand même la partie études.
Kenya, puisque... ça se passe comme ça pour toi ?
Justement, en fait, quand je vous écoute, donc c'est vrai qu'au niveau de l'emploi du temps, comme vous étiez en train de le dire, donc j'ai donné mon emploi du temps quand j'ai passé l'entretien, etc. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'emploi du temps, je n'ai pas à me plaindre. C'est vraiment s'adapter à mes cours, quoi. Après, pour les examens, c'est vrai que j'ai eu un souci. Donc j'avais prévenu un mois à l'avance. J'avais écrit une lettre et tout ça pour dire que ben voilà, c'était la fin de l'année, donc j'allais avoir des examens. Puis la secrétaire en fait qui s'occupe de faire les emplois du temps, elle me dit que si j'apporte pas un justificatif comme quoi j'ai des examens, alors que quand j'ai été engagée, enfin on savait très bien que j'étais étudiante et que forcément à un moment de l'année j'allais avoir des examens, et du coup elle me dit que si j'apporte pas de justificatif, je recevrai une lettre d'avertissement chez moi. Donc du coup moi je voulais savoir si ça en fait c'était une directive en fait du siège en quelque sorte d'exercer cette petite pression qui est la lettre d'avertissement, ou si c'est un cas isolé, si je puis dire.
Pour moi, c'est un cas isolé, parce que je ne vois même pas qu'est-ce qui peut être écrit dans la lettre d'avertissement. Et un avertissement sur quoi ? Donc, pour moi, c'est vraiment un cas isolé, et ce n'est pas du tout une politique d'entreprise. Alors après, c'est vrai que vous êtes à 18 heures, donc c'est pour un étudiant. En moyenne, un étudiant, c'est entre 8 et 10 heures.
Mm-hmm. Donc effectivement... Mais ça fait encore partie du critère étudiant sur votre site, en tout cas. Des étudiants peuvent travailler 18 heures.
Oui, parce qu'il y a des étudiants en université qui ont très très peu d'heures de cours. Mm-hmm. Donc effectivement, il y en a, ils peuvent avoir un contrat d'étudiant qui est de 20 heures. Donc voilà, est-ce que c'est dû à ça, une difficulté à reporter les heures sur une autre plage ? Parce qu'en gros, c'est une adaptation, c'est des horaires qui sont reportés sur d'autres plages. Mm-hmm. Donc là, pour moi, c'est vraiment un cas isolé. Et cette notion de lettre d'avertissement, je ne vois pas ce qui peut être écrit.
Parce que j'ai prévenu que je serais absente. Enfin, j'ai prévenu un mois à l'avance. Je voulais pas les prendre de cours et qu'ils puissent trouver quelqu'un pour me remplacer. Mais au final, ça a été très mal pris. Du coup, j'y suis pas allée quand même parce que je pouvais pas rater mes examens. Et j'ai dû un peu batailler avec l'université, quoi, pour avoir un justificatif. Mais bon, vous imaginez bien que s'il doit faire des justificatifs à tous les étudiants qui ont un job étudiant, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi.
Après, ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui automatiquement donnent le justificatif à tous leurs salariés étudiants. Il y a vraiment des écoles qui sont structurées, qui sont organisées pour ça.
Voilà, c'est la fac, c'est vrai.
Et qui automatiquement, quand l'étudiant est...
Et
ils savent s'il est salarié ou pas par ailleurs, il y a tout de suite un dispositif qui est mis. J'aime bien travailler.
mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. Ce que je préfère, c'est quand je travaille au lit. J'aime bien travailler, mais le week-end je me la coule douce. Sirotant ce vin délicieux, merguez et couscous. J'aime bien travailler. Est-ce que t'aimes bien travailler? J'aime énormément l'argent, c'est pourquoi j'aime bien travailler.
D'accord, ne compte pas sur nous pour qu'on remplisse ton emploi du temps et ses trous. T'es dégoûté? Tu fais une drôle de tête. Nous on part jamais en vacances, on est des fous. Ne compte pas sur nous pour qu'on remplisse ton emploi du temps et ses trous. T'es dégoûté? Tu fais une drôle de tête. C'est parce que TTC continue là où tu t'arrêtes.
On travaille et gagne en assurance. On bataille et tue la concurrence. Toujours plus, je veux toujours plus. Allonge, donne-moi tout, donne-moi tout. J'ai tout planifié, bien détaillé, pour que rien ne puisse m'échapper. Mon business plan d'une justesse claire. Use mon temps, il coûte trop cher. Je compte bien faire fortune un jour. C'est pour ça que je job, pour ça que je me colle. Un réveil le matin, c'est déjà lundi. Le week-end est fini, on est reparti. Pour une semaine entière, sans petit déj copieux. Une rose pour deux, une vie heureuse.
Ne compte pas sur nous pour qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est trop. T'es dégoûté? Tu fais une drôle de tête. Nous on part jamais en vacances, on est des fous. Ne compte pas sur nous pour qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est trop. T'es dégoûté? Tu fais une drôle de tête. C'est parce que TTC continue là où tu t'arrêtes.
Lorsque je me lève le matin, il est déjà 2h de l'après-midi et j'ai mal dormi. Quelques minutes dans la salle de bain, j'ai déjà allumé mon ordi et c'est mal parti. J'avale en vitesse un bout de pain, des céréales et un jus de raisin. J'avais pas de tartine, Millie met la mail est pour demain. Je devrais boucler ça en un tour de main, mais j'ai pas envie. J'ai plusieurs milliards de rendez-vous, quelqu'un à qui je dois rendre des sous. Quelque part en ville, je ne vais pas le faire attendre des heures. Je ne voudrais pas qu'il soit déçu, ça ne serait pas gentil. Si je me mets pas au boulot d'avance, je ne m'y mettrai jamais de la vie, ça c'est garanti. Je ne bosse pas dans un bureau par chance, j'ai la flemme et c'est une maladie, mais c'est ça la vie.
Ne compte pas sur nous pour qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est trop. T'es dégoûté? Tu fais une drôle de tête. Nous on va jamais en vacances, on est des fous.
Travailler de TTC sur RFI.
Le monde est à nous.
Le monde est à nous, on parle petit boulot aujourd'hui. Et justement, la loi travail de la ministre Myriam El Khomri a sacrément fait parler d'elle cette année entre grève, manif et rassemblement de nuit debout à République.
Pour mieux comprendre cette loi dont on parle tant et qu'on connaît si peu finalement, Donia et Clara ont préparé la revue de presse du jour.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos? Le jeune?
Mon portable, qu'est-ce qu'il me dit ?
Bonjour Twitter, je suis le projet de loi travail. On parle beaucoup de moi, mais on me connaît mal. Et si on faisait connaissance ?
Ah ouais, la loi travail qui me parle. Attends, t'essayes de racoler tout le monde, dis donc. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de toi ?
C'est une réforme indispensable. Lisez-la, beaucoup d'expressions aujourd'hui sur ce texte-là de la part de ceux qui ne l'ont pas lu. C'est une réforme indispensable.
Indispensable, c'est lui qui le dit, il va pas dire le contraire, le Premier ministre. Mais moi, pourquoi je devrais le croire? Qu'est-ce qui te rend indispensable?
Je suis à croquer, et ma maîtresse ne dira pas le contraire. Elle qui me défend si bien.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça?
Écoutez, je trouve que c'est absurde que les jeunes aient peur de cette loi. Parce pourquoi que les jeunes, ce sont eux les victimes de cette hyper-précarité, de ces CDD, de ces stages aussi. Ce gouvernement propose la mise en place d'un droit à la nouvelle chance, c'est-à-dire que tous les jeunes qui sont sortis du système scolaire, qu'ils puissent bénéficier à l'accès à une première qualification.
Tu le vois bien, la situation est catastrophique. Il vous faut une rénovation du code du travail. Enfin, t'entends pas ce qu'on dit de toi dans les médias ?
Valait-il mieux pousser son premier cri au début des années 50 ou après les années 80 ? La jeune génération est-elle une génération sacrifiée ? Leurs parents, enfants du baby-boom, ont-ils vécu dans des conditions privilégiées ?
En gros, qu'est-ce que je te propose ? Un temps de travail qui passe de 10 à 12 heures par jour. Et pour les alternants, de 8 à 10. que des mesures qui vont relancer la compétitivité des entreprises et créer de l'emploi. Mon charme t'a-t-il convaincu ?
T'as pas vraiment la cote pourtant. Ça fait des mois que j'entends des gens qui crient en bas de chez moi contre toi.
Mais tu les crois, toi, tous ces lycéens manipulés, ces gens qui n'ont rien dans le cerveau ? C'est même pas moi qui le dis, puisque je reprends les simples mots de notre ancien président Sarko.
Bah pourtant, ouais, en partie, je les crois. Moi, je fais pas confiance aux inconnus si facilement, tu vois. Et puis, c'est vrai qu'on est de plus en plus qualifiés et on a de moins en moins de boulot. Moi, par exemple, je multiplie les stages, si ça, c'est pas déjà être flexible. Et tiens d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, t'étais pas né à cette époque-là, mais en 2006, il y a déjà eu une loi sur les jeunes et le travail. C'était le CPE, le contrat première embauche. Et déjà, les jeunes avaient manifesté et à ce moment-là, ils étaient déjà encouragés par qui ? Par Hollande himself.
Je demande, et les syndicats l'ont compris, et les mouvements de jeunes aussi, je demande qu'il y ait une mobilisation très forte.
Mais ça, c'était en 2006, c'était une mesure de droite. Le contexte est bien différent aujourd'hui. Maintenant, tout a changé. Et je ne te veux que du bien, je t'assure. Et dire qu'il y en a qui doutent au point de coucher dehors, place de la République.
Ah oui, il y a Nuit Debout, j'y suis passée l'autre jour. Et moi, par contre, je trouve ça très beau, tout ce monde en marche vers un nouveau monde. Mais bon, si toi, tu trouves ça ridicule...
Non, écoute-moi bien. J'étais en mode drague, tout gentil, tout mignon. J'essayais de t'avoir dans mon camp tout en douceur. Mais si tu me résistes, que les choses soient bien claires. Je ne vais faire aucune concession. Tu vas voir de quoi je suis capable.
Mesdames et messieurs les députés, le Conseil des ministres qui s'est réuni sous la présidence du chef de l'État m'a habilité à engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi visant à instaurer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et pour les actifs, comme le permet l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.
Alors là, vous vous demandez comment cette histoire peut bien se terminer alors qu'elle partait si mal. Bah, elle se finit pas en fait, elle s'enlise. Un vrai feuilleton à suspense et on attend le prochain épisode avec impatience. Mais en tout cas, moi, j'essaye de me remettre comme je peux de cet ascenseur émotionnel. Et en ce moment, comme tu vois, ça va mieux.
Comme tu vois, ça va mieux, ça va mieux. Je ne pense presque plus à nous deux, à nous deux. Ça m'a pris du temps, c'est vrai. Ce n'est pas encore ça, mais ça va mieux, ça va mieux. Je n'ai plus besoin. Ou si peu, c'est moins fragile qu'on le pense, un cœur en convalescence.
Geneviève, tu avais une question pour Sophie de Tarlé.
Alors oui, Sophie de Tarlé, cette loi est-elle favorable pour les jeunes ou est-ce qu'elle les rend plus précaires ?
Ah, ça c'est une question piège ça. Moi je pense que, en effet, les entreprises ont besoin de lois, disons, un peu plus souples. Pour embaucher plus facilement. C'est vrai que là, aujourd'hui, je vois même dans un journal comme le Figaro et même comme dans beaucoup d'entreprises, finalement, l'alternance s'est énormément développée. Il y a beaucoup, même dans le journalisme, hein, des métiers comme ça, alors qu'avant, c'était un métier pour les apprentis boulangers. Et parce que c'est souple, ça permet d'avoir un jeune pendant 2 ans, de le tester. Donc, tout ce qui favorise la souplesse permet quand même de favoriser les embauches. Là, on voyait un exemple avec l'Angleterre, un témoignage d'une jeune fille qui travaille en Angleterre, qui dit là-bas, on se fait virer facilement, mais aussi on se fait embaucher facilement. Alors, j'ai pas envie que ça devienne comme en Angleterre, mais quand même, quand on introduit un peu plus de souplesse, on trouve plus facilement du travail, et surtout, on a plus de responsabilités vite. Et pour un jeune, on progresse plus vite dans une carrière, alors qu'en France, j'ai l'impression qu'en tout cas, les jeunes qui partent à l'étranger étudier et travailler à l'étranger, c'est ce qu'ils me disent. Ici, tout est bloqué. On n'a pas d'avenir. Donc, je pense que de toute façon, il faut qu'il y ait un peu de changement. Alors, je ne sais pas si c'est cette loi en particulier. Hein, je ne suis pas spécialiste du droit du travail. Mais en tout cas, un peu de changement et un peu de souplesse ne ferait pas de mal à notre société, ne serait-ce que pour que les jeunes aient plus de travail.
Donc, comme vous venez de le dire, donc dans le micro-trottoir, on entendait une Anglaise. Donc,
qui a été diffusée en première partie.
C'est ça. Donc, je l'ai interviewée et elle disait que donc, le marché français est très fermé. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas assez flexible en comparaison au marché anglais ou encore américain ou canadien.
Canadien, ouais.
C'est ça. Et donc, Thierry Roger, les enseignes Carrefour sont partout dans le monde. Et est-ce que vous vous adaptez au marché du travail des pays dans lesquels vous êtes implanté, notamment en ce qui concerne l'embauche des jeunes ?
Ben oui.
toute façon, le concept Carrefour, c'est vraiment de s'adapter et sur le plan commercial et sur le plan social au pays dans lequel ils existent. Donc forcément, sur le plan du droit du travail, on est complètement adapté à ce qui se passe en local. Après, l'emploi des jeunes reste quand même un sujet dans tous les pays du monde aujourd'hui. Et donc, il y a des politiques d'emploi favorisant l'emploi des jeunes, que ce soit au Brésil, en Chine, en Argentine, en Pologne ou en Roumanie. Enfin, ça fait partie complètement du concept Carrefour.
Vous pourriez nous donner des exemples concrets de grandes différences entre l'emploi des jeunes en France et puis au Brésil ou en Chine ?
Sur l'emploi des jeunes, alors, dans l'emploi des jeunes, il y a les jeunes très qualifiés. Donc ça, c'est un sujet. Il y a les jeunes peu qualifiés.
Comment ça se passe pour les étudiants chinois, par exemple ?
Alors partout, il y a comme nous des contrats en CDI avec des petites bases contrats et des horaires adaptés aux jeunes pour pouvoir travailler en parallèle de leurs études. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un phénomène mondial et société qu'en parallèle des études, on doit travailler, je dirais, son appétence à rentrer dans l'entreprise et à découvrir les codes de l'entreprise. Ça, qu'on soit un jeune Français, un jeune Chinois ou un jeune Brésilien, on doit pouvoir faire le parallèle entre études et vie professionnelle. Donc, ce type de contrat très adapté avec des petites bases contrats qui permet vraiment, on l'a dit tout au long de l'émission, de découvrir les codes de l'entreprise, de se découvrir soi-même, de développer des choses. Ça, on le met partout et on le met dans tous les pays. Les horaires adaptés. Ça, on le met partout et dans tous les pays et sur toutes les typologies de jeunes.
Pauline, tu voulais réagir ?
Oui, alors moi, c'est très bête, mais souvent, quand on me demande ce que je fais, je dis que je travaille dans une boutique de fringues au lieu de tout simplement dire que je suis vendeuse. Donc, il y a une vraie dimension identitaire dans tout ça, une volonté de montrer quelque chose de valorisant, comme s'il y avait une peur du regard des autres et du jugement. Donc, Sophie de Tarlé, ma question est-ce que vous avez déjà eu honte de l'un de vos petits boulots ?
Honte, non, j'ai jamais eu honte parce que j'étais une fille assez débrouillarde et donc j'étais plutôt assez fière de subvenir à mes besoins très jeune. Donc j'ai jamais eu honte de ça. Mais c'est vrai que parfois j'étais confrontée à des situations difficiles avec des patrons parfois indélicats et c'était dur. Et oui, j'ai eu un peu honte. Je me rappelle d'une fois j'étais embauchée dans un magasin de vêtements pour vendre des blousons en cuir et j'arrive et je vois une petite annonce sur la vitrine et je dis vous avez besoin de quelqu'un pour le mois d'août, alors ils me disent oui tu peux commencer maintenant là tout de suite. Donc j'y vais et en fait le chef du magasin me dit est-ce que tu peux aller dans la remise avec moi? Et là, j'ai dit oui, pourquoi faire ? C'est là où il y avait les chaussures. Et bon, comme vous pouvez vous en douter, il m'a demandé des choses pas très honnêtes. Et donc j'ai dit non, c'est pas possible. Et
quel genre de choses ?
Choses sexuelles. Hein, c'est, voilà. J'en parle parce que ça peut arriver. Vous êtes des jolies jeunes filles et vous pouvez tout à fait la cible de genre de personnes lorsque vous cherchez un petit boulot. Donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que pour vous mettre en garde contre ça. Alors je vais raconter la fin de l'histoire parce qu'elle est assez incroyable. C'est que j'arrive, donc je dis ça m'intéresse pas. Je continue à travailler dans le magasin quand même. Je me suis pas démontée. Je travaille, à la fin de la journée, je reviens voir le monsieur. Je dis, est-ce que c'est bon, je suis embauchée? Et il m'a dit, oui, bien sûr, t'es embauchée, c'est bon, je t'ai rien dit, mais c'est bon, t'es embauchée. Et puis ce petit chef part en vacances et moi je continue à faire le mois. Et puis il y a un petit jeune vendeur qui vient me voir et me dit « Oh là là, une fois ici, ça a été horrible, je suis allée dans la remise et puis j'ai vu une fille faire ça avec le chef. » Alors j'ai dit « Écoute, je te le dis tout de suite, moi ça m'est arrivé, enfin ça, il m'a proposé aussi, mais je te le dis tout de suite, moi j'ai dit non quoi. » Et il m'a dit « je te crois parce que la fille, elle n'a pas été embauchée. »
Oula, d'accord.
Vous auriez tout perdu là.
Il faut savoir mettre des limites à son patron. Quoi.
Effectivement, ouais.
Donc pour le coup. Donc j'ai trouvé que c'était important de vous raconter cette histoire pour vous mettre en garde et ça peut vous arriver aussi et d'être évidemment ferme.
C'est vrai.
Et de dire non.
Se protéger de ça.
Et Pauline, justement, tu voulais en profiter pour poser une dernière question à Sophie.
Tout à fait, parce que comme vous, j'ai envie d'être journaliste plus tard et je me demande quand est-ce que je vais avoir le courage d'arrêter en fait mon petit boulot pour me consacrer vraiment à 100% à mes études et surtout pour faire un stage qui sont forcément moins rémunérés.
Et puis après devenir pigiste, et puis peut-être un jour avoir un CDI.
Je vais vous dire une chose, mon premier stage, j'ai continué mon petit boulot. Mon premier stage dans le journalisme, j'ai dit au rédacteur en chef, alors je serai libre toute la journée, pas de souci, mais par contre...
Donc la chance peut tourner...
Par contre, le jeudi, j'ai un babysitting auquel je tiens vraiment, parce que voilà, je me suis engagée. Et donc le jeudi, je partirai à 5h pour aller garder les enfants. Et le rédacteur en chef m'a dit, il n'y a aucun souci. Donc tu vois, parfois, on peut simuler les choses.
Mais du coup, ma question, c'était, quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt concrètement pour partir? Et est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes qui sont dans ma situation?
Sachant que le boulot de journaliste que veut faire Pauline, c'est un boulot en plus qui est assez compliqué, quoi, qui est lui-même aussi très précaire.
Ah bah, tu abandonneras le petit boulot lorsque le métier de journaliste pourra te faire vivre et pourra te faire manger. C'est tout simple.
Oui.
Tant que ton métier de journaliste ne te nourrit pas, eh bien, tu continueras ton petit boulot. C'est tout simple.
Comme le monde, l'heure tourne.
Et en guise de bilan, nous posons cette question à tous nos invités. C'est la question à 20 ans.
Je les ai vécus dans l'ombre avec pour seul envie l'amour et puis de dévorer le monde.
Non, je ne regrette rien.
Kaina, c'est à toi.
Thierry Roger, Sophie de Tarlet, est-ce que celui et celle que vous étiez à 20 ans serait fier de la carrière que vous avez faite?
Thierry Roger?
Oui, moi je pense que oui, je voulais être directeur des ressources humaines à 20 ans et j'ai réussi à l'être à 45 ans. Donc en prenant des chemins détournés et des petits boulots et des passages forcément que j'avais pas imaginé, mais l'objectif a été atteint. Donc je dirais oui.
Et c'est ce qui compte.
Sophie de Tarlet.
Moi à 20 ans, je voulais être journaliste et je voulais être journaliste au Figaro et j'avais appelé et la dame, j'avais appelé quelqu'un au Figaro et on m'avait dit « Ah non, c'est pas possible ». Et en fait, j'y suis arrivée puisque je suis rentrée au Figaro en septembre. Donc vous voyez, 20 ans après, comme quoi on arrive toujours à ses fins lorsqu'on est motivé.
Que des success stories. Il y a Philippine dans le studio qui est en train d'applaudir avec ses mains. Juste avant de se quitter, la petite séquence de dédicaces. Pauline.
Alors, gros bisous à mes petites sœurs, Anna et Louise.
Geneviève.
Gros bisous à mes potes.
Maud.
Gros bisous à mes potes qui sont en train de bosser.
Kaina.
Gros bisous à ma grand-mère et à toutes mes tantes.
Et mention spéciale pour Victor Hull de l'autre côté de la vitre du studio.
Merci Thierry Roger et Sophie de Tarlet d'être venus jusqu'à nous aujourd'hui.
Le monde est à nous, c'est fini pour aujourd'hui.
Oui, mais on se retrouve la semaine prochaine.
Geneviève, Oumar, Fabien, Kaina, Clara, Lou se posent la question être populaire, oui. Mais à quel prix?
Et si tu trouves le temps trop long, sache qu'on reste connecté pour toi en permanence.
Sur Twitter, Facebook et Tumblr.
On est partout.
Tu peux retrouver les coulisses de l'émission, la fabrication des rubriques en images et des petites pépites surprises.
Salut à tous.
Salut à tous.
Salut.
Salut.